Vieilles Branches, une production Nouvelles Écoutes en partenariat avec Radio Nova.
C'est plus qu'un sport, le surf. La vie, c'est une vague. Et le surf, c'est le déséquilibre contrôlé. Or, dans la vie, nous sommes en train de gérer notre vie d'une manière déséquilibrée et contrôlée.
Bonjour. Vous me voyez, Joël de Ronet ?
Pandémie plus distance oblige, pour cet épisode de Vieilles Branches, j'ai retrouvé Joël de Ronet sur Zoom.
Ouais, l'appli de vidéoconférence qui a fait fortune depuis le début du coronavirus.
Forcément, entre les délais ralentis de réponse et le fait de ne pas se voir, ça change un peu l'ambiance de l'entretien qui est plus court que d'habitude. Joël de Ronet, vous connaissez peut-être sa fille, Tatiana, l'écrivain. Et puis, vous l'avez peut-être croisé sur l'océan, sur une planche de surf, ou plus simplement vu dans une vidéo brute où on le présentait comme un surfeur de plus de 80 ans. C'est aussi un scientifique accompli pour qui la vulgarisation est absolument primordiale et essentielle pour qu'on aille mieux en tant que société. Passion d'ailleurs dont il a fait un second métier et qui continue de l'animer. En cela, il rejoint pour moi des réflexions qu'ont tenues plusieurs scientifiques dans Vieilles Branches concernant la nécessité pour les scientifiques de prendre le temps de l'explication et du débat.
Très bien, attendez, hop, c'est parti.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de cocaïne, ça ne me fait rien.
De tout, de la
je suis
vie.
Encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Récolter ces paroles aujourd'hui, c'est aussi précieux qu'absolument nécessaire. Parce que depuis 4 ou 5 ans, chaque année qui passe rend cette citation d'Antoine Gramsci plus limpide, parfaitement adaptée à la drôle d'époque qu'on vit. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et pour les terrasser, ces monstres, ou au moins les tenir à distance, voire même les apprivoiser, écoutez les mots de nos vieilles branches, qui forment ensemble notre mémoire collective, c'est un véritable bouclier.
Ah, vieilles branches !
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance de leur vie, de l'amour, de la mort, de ce monde qu'ils ont connu et qui n'est presque plus, de leurs souvenirs d'enfants, de leur adolescence, de leurs amis, de leur passion pour l'art, la musique, les mots, la politique, du regard qu'ils portent sur l'époque, sur les jeunes, sur les combats qui se préparent. Parce que la beauté de l'âge, c'est qu'il libère la parole, et c'est ça que vous entendez dans Vieilles Branches. Je suis Marie Misset, et aujourd'hui, je suis sur Zoom avec Joël de Ronet. Bonjour Joël de Ronet, merci de me rejoindre sur Zoom. Vous avez une vie tout en superlatif, pionnier de la vulgarisation scientifique, l'oracle des temps modernes, mais aussi pionnier du surf. Cette pratique venue d'Hawaï, il me semble, enfin vous me direz peut-être un peu plus. Et un certain nombre de personnes un peu connues, comme Catherine Deneuve par exemple, dans les années 60, vous ont suivi sur les planches. Et puis premier aussi sur l'alerte anti-malbouffe, puisque dès 1979, avec votre femme Stella, vous avez écrit sur la malbouffe. Au début de l'année, on a même vu une vidéo brute avec vous. On vous voyait vaillant sur votre surf. Ça a remis un coup de projecteur sur vous qui êtes assez habitué, il faut bien le dire. Moi, j'aimerais d'abord revenir sur votre enfance qui m'a l'air assez idyllique. Mais avant tout ça, j'aimerais commencer avec une question qui me semble importante en ce début d'année 2021. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, de votre côté, l'année 2020 ?
Moi, j'ai vécu de manière, si j'ose dire, très constructive. Dans ce sens où, quand ce confinement m'a donné la possibilité de retourner sur moi, me recréer, me réinventer, relire beaucoup de choses, essayer de penser un peu à après. Donc ça a été le confinement pour moi une chance.
Ça vous a permis de faire une pause dans votre emploi du temps, j'imagine, toujours très plein ?
D'abord une pause, mais en même temps une pause de reconstruction. C'est-à-dire que le confinement a été pour moi le moyen de me repenser ce que j'allais faire, ce que je voulais faire, de relire des choses, de reprendre des contacts avec des amis avec qui je n'avais pas pris contact depuis longtemps. Voilà, donc c'était positif le confinement pour moi.
Alors, qui est le nouveau Joël de Ronet, s'il s'est réinventé ?
Le même réinventé, recréé, prêt à repartir pour des nouvelles aventures, prêt à recréer des nouveaux livres, des nouveaux articles, des nouvelles idées, des nouveaux contacts avec les gens, des nouveaux projets. Donc le voilà, il est là devant vous.
Du nouveau alors. Quand est-ce que vous situez, Joël de Ronet, le début de votre vie ? Quels sont vos premiers souvenirs ?
Le début de ma vie, c'est le 12 juin 1937, c'est ma date de naissance. Et j'ai eu une adolescence vraiment formidable, beaucoup de chance, avec des parents extraordinaires, un père et une mère très aimants et très créatifs, très constructifs sur ses enfants, sur les deux enfants, ma sœur et moi, mon pauvre frère qui a disparu, qui n'est arrivé que 10 ans après. Mais c'était une enfance et une adolescence extrêmement positive et constructive.
Vous avez quand même grandi un petit peu pendant la guerre, puisque vous venez de le dire, vous êtes...
Je suis né en 37, donc en 44, à la libération de Paris, j'avais 7 ans.
Vous en avez des souvenirs ? Des peurs, peut-être ?
Beaucoup, plein de souvenirs. Je me rappelle les chars de la 2e DB remonter l'avenue Victor Hugo. Un conducteur de char m'a pris sous les bras et m'a posé à cheval sur le canon du char. C'est des souvenirs extraordinaires. Mes parents m'avaient habillé en bleu, blanc, rouge, avec un pantalon rouge, une chemise blanche et des chaussettes bleues. Donc, j'étais tout à fait dans le coup.
Une joie extraordinaire, donc, presque, pour vous.
Inoubliable.
Vous avez grandi, vous l'avez dit, entre des parents assez extraordinaires, une mère russe, fille d'une actrice dramatique du théâtre Pouchkine, qu'elle n'a pas vue pendant des années parce qu'elle avait décidé de rester en Union soviétique, un père peintre et rentier qui a grandi à l'île Maurice. Ça commence un petit peu comme un beau roman, votre vie, une saga. Est-ce que la réalité, est-ce qu'elle était aussi romanesque que ces quelques mots le laissent croire ?
Ça a été exactement comme ça. J'ai été confronté entre l'âme russe, le souvenir de l'âme russe et la nostalgie des îles. Entre l'âme russe et la nostalgie des îles, l'île Maurice et la Russie, c'est ça qui m'a formé, qui m'a fait ma réflexion sur la vie, sur les gens, sur les autres. Vraiment, c'était formidable, c'est une chance formidable d'avoir ça. L'âme russe et la nostalgie des îles. Les deux mots sont importants pour moi.
Et vous mesurez la chance que vous avez eue de grandir dans un environnement aussi créatif, aussi ouvert ? J'ai parfois l'impression que les gens qui grandissent là-dedans ne se rendent pas compte à quel point c'est fou par rapport aux autres.
Mais moi, j'ai été beaucoup de chance, je réalise maintenant. C'est ces deux mondes, l'univers russe, l'âme russe, le charme slave, comme on dit, et en même temps, la nostalgie des îles, des palmiers, de la chaleur, la mer, la chaleur de la mer, les montagnes de l'île Maurice. Tout ça, c'est une chance formidable pour moi d'avoir vécu ça.
Votre sœur Zina, elle parle d'un matriarcat quand elle parle de l'ambiance dans laquelle vous avez grandi. Est-ce que vous souscrivez à son propos ? Est-ce que c'était les femmes qui régnaient en maître dans la maison ?
Je suis assez d'accord. Ma mère et les femmes ont joué un rôle très important dans ma vie. Ma sœur, ma mère. Mais il y a un terme qu'on emploie qui n'est pas approprié pour ma mère, mais c'est le terme de « Jewish mother ». Jewish mother, c'est une mère qui est toujours là, toujours présente, elle pense à tout, elle s'en fait beaucoup pour ses enfants. Ma mère était un peu comme une Jewish mother, même si elle n'était pas Jewish, elle était exactement une Jewish mother.
Et j'imagine que, vu les différents parcours des gens de votre famille, même si vous avez grandi dans un environnement assez bohème, je pense, votre père ou vos deux parents avaient de l'ambition pour vous.
Oui, le terme de bohème est très bon. Il y avait beaucoup d'artistes qui venaient à la maison tout le temps. J'ai rencontré Bernard Buffet, Lorjou, Carzou, qui venaient à l'atelier de mon père. Donc, je vivais dans une ambiance bohème. J'allais aux expositions de mon père, rencontrer beaucoup d'autres artistes. Et donc, mes parents avaient de grandes ambitions pour moi, comme scientifique, comme étudiant. Et ils m'ont beaucoup poussé à faire des études scientifiques. Ils m'ont jamais contrarié, m'ont toujours donné espoir et m'ont aidé à acheter tous les livres dont j'avais besoin. Jamais été privé de la connaissance nécessaire pour aller le plus loin possible dans ma carrière.
Et justement, la science, ça vous est venu d'où, comment, puisque vous avez grandi dans un milieu très artistique. Il y avait aussi de la science dans votre enfance ?
J'ai toujours été passionné parce que ma mère me donnait à lire des livres comme Le Comte d'Inouï, Alexis Carrel, Bachelard, Louis de Broglie. Donc, je lisais des bouquins scientifiques déjà, dont j'avais l'esprit très ouvert à la science. Il y avait dans l'atelier de mon père les grands dictionnaires Larousse, les 20 volumes de dictionnaire Larousse, me plongeais dedans. Pendant la guerre, on n'avait pas beaucoup de choses de distraction, de choses à faire. Je lisais les dictionnaires et donc la passion de la science m'est venue de tout ça.
Et de la passion de la connaissance.
Oui, absolument.
Parmi les personnes qui ont accompagné votre enfance et votre jeunesse, on a parlé de votre sœur Zina. Et puis, vous en avez parlé tout à l'heure, Arnaud, qui a disparu en mer de Chine, qui est un héros de la planche à voile, je crois, qui suscite encore aujourd'hui des articles, etc. Il formait avec sa femme un couple un peu mythique. Bref, c'est un personnage presque de roman. J'ai l'impression que son fantôme vous accompagne encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez perdu quelque chose en le perdant, lui, en 1984 ?
Oui, bien sûr, il y avait quelque chose dans Arnaud que j'adorais, qui est l'esprit pionnier, l'esprit contestataire, la volonté de toujours prouver qu'on avait raison. C'était Arnaud, même si tout le monde disait « tu n'y arriveras pas », lui, il voulait prouver qu'il avait raison. Et ça, j'aimais bien ça chez lui. J'étais tout à fait en faveur de son côté contestataire et pionnier. Et j'ai gardé ça de lui, les deux mots contestataire et pionnier.
Oui, bah effectivement, pionnier, vous l'avez été aussi à votre façon. Pour terminer un peu sur votre famille, quand on a une famille aussi aussi accompli, je pense à vous, mais je pense aussi à vos enfants. Est-ce qu'on ressent la nécessité d'être à la hauteur? Est-ce qu'on a le droit, quand on est un Deux-Rhônais, d'être moyen?
Il faut être soi-même. Ce que j'essaie d'expliquer à mes enfants, sois naturel, sois toi-même, crée-toi toi-même par rapport aux autres, dans ta relation avec les autres. C'est dans la relation avec les autres que tu te devines, que tu te comprends, que tu es toi-même. Donc l'idée, c'est d'être naturel. Il n'y a pas à être moyen ou supérieur, se sentir bien dans sa peau et bien avec les autres.
Et pour revenir sur votre côté pionnier, puis c'est la vidéo avec laquelle je sais que c'est une vidéo que beaucoup de gens m'ont envoyée en connaissant moins votre parcours par ailleurs, de beaucoup de jeunes m'ont envoyé en disant « Ah, il faudrait que tu l'interviewes, ce monsieur qui fait du surf à plus de 80 ans ». Comment vous êtes venu au surf, donc qui était une discipline dans les années 50, presque... en tout cas qui était un peu limité à Hawaï et aux environs. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce sport?
Alors, j'y suis venu par plusieurs voies. La première, c'est que moi-même, je faisais déjà beaucoup de ski. Je faisais même de la compétition depuis l'âge de 14 ans. Je faisais de la compétition de ski. La deuxième raison, c'est que je faisais du planking, c'est-à-dire je prenais des vagues à plat ventre sur une petite planche en contreplaqué recourbée devant. Et la troisième raison, c'est que j'ai vu à la salle Playel un film d'un Basque, Jacques Chégaray, et un film qui s'appelait « Hawaï, île de rêve », où j'ai découvert avec émerveillement, pour la première fois, des gens de tous les âges, debout sur les vagues, en train de surfer en couleur, dans une mer magnifique. Et ça qui m'a conduit à m'y aller moi-même.
C'est ce film.
Ce film. Hawaï, île de rêve, de Jacques Chégaray.
Qui doit être un mythe, j'imagine, pour l'histoire du surf.
Ça a déclenché toute ma envie d'y aller, de voir qu'il y avait tellement de gens qui en profitaient. Et le planking, moi, je pratiquais déjà, je savais prendre des vagues. Donc, prendre des vagues à plat ventre, passer de là à prendre des vagues debout. C'est Peter Viertel, mon ami américain, qui m'a montré comment faire.
Et vous aussi, vous surfez toujours. Qu'est-ce que la pratique du surf à votre âge vous apprend sur votre corps? Je crois que, par exemple, dans l'eau, on est quand même toujours plus léger, comme toujours plus en apesanteur. Le corps pèse peut-être un peu moins. Comment est-ce que vous vivez le vieillissement, vous qui avez toujours été très sportif?
Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Il n'y a pas d'âge pour faire du sport tant qu'on a les muscles, tant qu'on a la nutrition. Tant qu'on a l'esprit, la volonté d'y aller, la motivation, il faut y aller. Moi, je n'ai pas d'âge pour faire du sport. À 83 ans, je ne me sens pas comme un gars de 20 ans, mais je me sens comme un type de 40 ans. Et j'en fais certes pas 3-4 heures par jour comme avant, j'en fais une heure et demie ou deux, mais je continue à le faire parce que mes muscles fonctionnent bien et mon esprit est disposé, motivé.
Le matin au réveil?
Ah oui, carrément. Matin au réveil, on va voir les conditions. J'habite pas loin du. Je regarde sur la falaise comment sont les conditions et je calcule l'heure à laquelle je vais y aller.
Et est-ce que vous avez appris à peut-être faire attention à un corps qui répond peut-être moins qu'à 20 ans?
J'ai fait attention aux autres, aux gens d'ailleurs, aux autres surfeurs qui peuvent être dangereux pour moi. C'est pour ça que je surfe avec un casque de surf spécial pour éviter les coups des planches des autres ou de ma propre planche. Donc je suis prudent. Je reste moins dans l'eau, moins longtemps, et j'ai appris à faire de l'apnée. Quand on est mis sous des grosses vagues, on reste sous l'eau, on ne peut pas sortir. Donc j'ai appris à faire de l'apnée avec des professionnels dans des piscines.
Vous avez une philosophie, non, du surf. Enfin, pour vous, c'est pas juste un sport. Qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Oh non, c'est plus qu'un sport, le surf. La vie, c'est une vague. Et le surf, c'est le déséquilibre contrôlé. Or, dans la vie, nous sommes en train de gérer notre vie d'une manière déséquilibrée et contrôlée. On est en déséquilibre parce qu'on doit mourir. On est confronté à des problèmes environnementaux, des problèmes humains, des problèmes familiaux, des problèmes professionnels. Donc, il faut gérer ça dans un déséquilibre contrôlé. Le terme clé que vous pouvez retenir, c'est déséquilibre contrôlé. Ça, c'est la leçon du surf.
C'est l'imprévu, quoi. Apprendre à faire face à l'imprévu en permanence.
Face à l'imprévu, être résilient.
L'intégrer.
Intégrer, prospectiviste, prévisionniste et résilient.
Ça ressemble tout à fait au rapport que vous avez avec le monde en général, effectivement, quand on voit ce que vous avez fait de votre vie. Pour terminer sur ce sujet, Laura Adler, que j'ai interviewée à propos de son livre sur son entrée dans la vieillesse, ce livre s'appelle « La voyageuse de nuit », elle décrit beaucoup de personnes âgées qu'elle côtoie, comme Edgar Morin, par exemple, qui semblent être de jeunes éternels, un petit peu comme vous. J'ai l'impression que ça n'est possible, ça, que si on arrive à entretenir avec soi-même, une relation où la douceur et l'exigence se mêlent. Vous avez des exigences envers vous-même au quotidien?
Absolument, la nutrition, l'exercice, la relation aux autres, la relation avec ma femme, ma famille. Donc, exercice, nutrition, méditation, bien-être de l'esprit, relation aux autres. Les clés, alors Edgar Morin est un très bon exemple pour moi, il a 98 ans, 99, et il me disait, Joël, la vieillesse, c'est comme un escalier qu'on monte, pas un escalier qu'on descend vers la tombe. Chaque marche est plus importante parce qu'elle est chargée de l'expérience des marches précédentes.
Et votre douceur, où est-ce qu'avec vous-même, elle vient se nicher où? Parce que j'imagine qu'il faut être doux aussi quand même.
Bon, la douceur vient du fait qu'il faut s'aimer un peu. Moi, je m'aime bien, peut-être trop d'ailleurs, au détriment de mes enfants qui trouvent que je suis un peu, disons, je n'ai pas trop concentré sur mon corps, sur le fait que j'ai bien à mon âge, je suis beaucoup de gym.
Vous avez l'air aussi d'entretenir une relation particulière au lieu de votre vie, aux endroits où vous avez vécu. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un lieu aimé?
Un attachement d'abord, j'ai beaucoup aimé les lieux comme l'île Maurice, j'ai beaucoup aimé aussi notre maison de campagne dans l'Yonne. Et un lieu, c'est un ressourcement en fonction des souvenirs qui sont attachés à ce lieu. Le lieu, ce n'est pas seulement le paysage, ce n'est pas seulement la relation à la nature. Le lieu, c'est aussi des souvenirs. Et c'est un catalyseur de souvenirs, le lieu. Dès qu'on le voit, pof, les souvenirs vous remontent à la tête. Et c'est ça que j'aime avec un lieu, c'est de me rappeler des choses.
Et il y a des lieux comme ça où vous ne pouvez plus aller, du coup? Ou qui sont trop douloureux?
Que je ne pourrais plus y aller parce qu'il y a trop de souvenirs.
Oui, trop de souvenirs, trop douloureux. Ou alors vous les acceptez tous, les souvenirs?
Moi, j'ai des souvenirs douloureux de certains lieux. Par exemple, ma maison de campagne dans l'Yonne que j'aime beaucoup. C'est là où j'ai eu mon dernier accident de vélo l'année dernière, où je suis tombé sur la tête. J'ai été paralysé de la jambe droite du pied droit. Donc, j'ai un souvenir de cette hémorragie cérébrale liée à cette maison de campagne. Et je crois que je ne ferai plus jamais de vélo dans cet endroit-là.
Ouais.
Joël de Ronay était un véritable visionnaire dans le domaine numérique. Alors, il n'a peut-être pas vu les dérives que la centralisation du réseau Internet autour des GAFAM pouvait entraîner, mais il a compris beaucoup de choses avant tout le monde. Et c'est peut-être parce qu'il a côtoyé le tout début d'Internet quand il était aux États-Unis dans les années 70. Professeur au MIT, il a pu utiliser ARPANET, l'ancêtre d'Internet. En 98, il racontait d'ailleurs dans une interview où on lui demandait d'imaginer Internet dans 5 ans, qu'après ARPANET, il avait utilisé un autre réseau primitif pré-Internet appelé La Source. Cette interview de 98 est assez folle. Il parle d'Internet sur les téléphones portables et de la TNP. Vous êtes un grand scientifique, on l'a pas encore mentionné. Vous avez été enseignant au MIT, vous avez été directeur des applications de recherche à l'Institut Pasteur. Et aujourd'hui, dans le monde actuel, la science, c'est a perdu un peu en crédibilité, enfin, auprès du grand public. Comment est-ce que vous vivez, vous, après ce un an de coronavirus où on a entendu un président de la République de la plus grande puissance mondiale dire qu'il fallait boire de l'eau de Javel pour guérir? Comment vous avez vécu cette année en tant que scientifique?
Moi, je ne crois pas que du tout que la science a perdu son prestige auprès des gens. Je crois qu'au contraire, la science reste l'horizon de l'espoir. Et moi, j'essaye de faire de la vulgarisation scientifique pour aider les gens à conserver cet horizon de l'espoir qui représente l'inconnu et que l'on peut y aller ensemble. On peut construire le futur plutôt que le subir. Donc, je crois que du tout, les gens ont toujours cette propension à aimer la science et à vouloir la comprendre, ce qui fait que j'écris constamment des articles scientifiques, je publie beaucoup de choses sur Internet, je tweete tous les jours 2 ou 3 tweets scientifiques qui, je pense, peuvent aider les gens et les intéresser. Et donc, je continue sans arrêt à faire de la vulgarisation.
Mais vous ne répondez pas à ma question de comment est-ce que vous avez vécu cette année qui n'a pas dû être évidente pour un scientifique.
L'année pour un scientifique, elle était ce qu'elle est toujours pour moi, c'est-à-dire une année de compréhension des événements. C'est vrai qu'on a entendu le tout et son contraire de beaucoup de gens qui ont dit n'importe quoi. Vous parlez de Trump et de ses bêtises. Mais comme scientifique, moi, j'ai la raison. Et quand un scientifique a la raison, il peut connecter les éléments les uns aux autres, les événements, se faire une raison, comme on dit, plutôt que de se subir de l'émotion. Pour moi, toute ma formation est une formation de raison, et donc je fais attention aux émotions. Bien sûr, je les aime, je les accueille avec plaisir, mais la raison va essayer de primer pour éviter les dérapages.
Vous vous méfiez des émotions?
Je ne m'en méfie pas. Je sais les utiliser quand il faut, quand j'en ai besoin, mais je ne m'en méfie pas. Mais trop d'émotions, parfois, priment sur la raison.
Parmi les aventures que vous avez lancées dans votre vie, qui sont nombreuses, il y a le site participatif AgoraVox, qui, quand vous l'avez créé, c'est en 1994, misait un petit peu tout sur l'intelligence collective qui serait permise par Internet pour revitaliser, entre autres, le débat démocratique. Moi, je me souviens très bien, un petit peu plus tard, peut-être dans le début des années 2000, du vent de fraîcheur qu'AgoraVox a apporté dans le monde médiatique. Vous avez écrit en 2006 un livre sur l'aventure qui s'appelle « La révolte du pronétariat ». C'est quoi le prolétariat ?
C'est un mot qu'on fait avec. C'est comme la révolte du prolétariat, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, avec le point levé. Le mot prolétaire, je l'ai créé à partir du net. Nous sommes tous pour et sur le net. On est des prolétaires. Et la révolte du prolétariat était un livre, je me suis de le dire de manière immodeste, visionnaire, de tout ce que l'on vit aujourd'hui. La manière dont les gens ont pris en main l'Internet pour créer des sites, créer des liens, créer des applications nouvelles, et on est en plein dedans. Donc c'était un livre qui a été écrit il y a 10 ans, 15 ans, et qui était visionnaire de l'Internet d'aujourd'hui. Donc je revendique, et je suis très fier, de mon titre « La révolte du prolétariat ».
Oui, mais AgoraVox, c'est une aventure qui reflète aussi, à mon avis, les désillusions de ces dernières années sur l'intelligence collective, puisque le site héberge aujourd'hui pas mal de théories complotistes. C'est un petit peu un détournement de votre projet de base. Est-ce que ce n'est pas aussi une désillusion pour vous ?
Oui, c'est une grosse désillusion. Je regrette énormément qu'AgoraVox ait perdu son esprit de départ, que ce soit livré comme il est fait par les gens, il est construit par les gens. Il a dérivé vers les théories complotistes. Et malheureusement, c'est une dérive que je regrette beaucoup. Ce n'était pas l'idée d'AgoraVox au départ, mais je suis content de l'avoir créé.
Mais vous dites pas forcément que vous êtes trompé, mais que ça va mettre un peu plus de temps que prévu, l'avènement de l'intelligence collective, vous ?
Non, je me suis pas trompé. J'ai fait trop confiance aux réseaux sociaux. J'ai pensé que les réseaux sociaux allaient être une nouvelle forme de démocratie participative. J'y ai cru, j'y crois toujours. Mais il y a eu une dérive des réseaux sociaux vers la haine, vers les fake news. Et ça, je le regrette beaucoup. Mais je n'avais pas prévu. J'avais pensé que les réseaux sociaux avaient une vraie capacité de se construire ensemble. Ouais. Je regrette cette dérive beaucoup.
D'ailleurs, dans Surfer la vie, qui est votre livre qui est sorti en 2012, l'année où vous avez été personnalité numérique de l'année, vous voyez advenir une société collaborative portée par les sciences, les progrès technologiques. Ce livre, vous l'avez écrit à une période où Barack Obama était président des États-Unis, où les révolutions arabes venaient d'advenir, notamment grâce à Facebook et à Twitter, et où on pensait, moi la première, que les utopies du monde ouvert offertes par Internet étaient en train d'advenir, qu'on était en train de le vivre. 8 ans plus tard, comme vous le dites, nos regards sur les réseaux sociaux et sur le monde numérique a énormément changé. On est passé d'un rêve d'une société collaborative à un cauchemar un petit peu plus orwellien. Est-ce que vous pensez que le futur que vous envisagez dans Surfer la vie, il est quand même en train d'advenir en sous-marin peut-être ?
Alors vous avez employé un mot très important pour moi, c'est le mot de utopie. Il faut qu'on soit un peu des utopistes. Rappelez-vous l'île de l'utopie, Utopia, de Thomas More en 1656. C'était l'idée où les hommes se créent le futur eux-mêmes, alors que la religion détestait l'idée. On a considéré les utopistes de manière péjorative, parce que seul Dieu avait le droit de programmer le futur des hommes. Or, ce que les utopistes voulaient, c'était programmer leur propre futur. Donc, moi, j'aime bien ce terme d'utopie que vous employez. Je crois que les réseaux sociaux, c'était une forme d'utopie. Il faut y revenir. Il faut revenir à l'utopie bienveillante. Une utopie bienveillante des réseaux sociaux plutôt que la contradiction permanente, la haine que l'on voit toujours avec l'anonymat. La haine ressurgit dans les réseaux sociaux à cause et grâce à l'anonymat. Je pense que de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer avec leur vrai nom, avec leur vraie capacité intellectuelle, être reconnu, changera beaucoup cette haine qui circule sur les réseaux sociaux.
Vous pensez, vous, contrairement à beaucoup de militants d'Internet, que l'anonymat n'est pas une bonne chose ? Que par exemple, dans des sociétés dictatoriales, l'anonymat sur Internet peut être un prérequis pour justement pouvoir s'exprimer librement.
Oui, là, sur les sociétés totalitaires, c'est bien qu'il y ait de l'anonymat. Mais dans les sociétés démocratiques, alors bien sûr, c'est partout à la fois, mais je pense que la possibilité d'être reconnu, d'ailleurs, nous tweetons sous notre propre nom. Donc, je pense qu'il faut savoir aussi se démasquer et participer tel que l'on est vraiment. Je pense que ça va contribuer à rendre les réseaux sociaux à la fois utopiques mais beaucoup moins de fake news, quand les gens seront eux-mêmes.
Et en 2020, Joël Dornet, vous restez optimiste après l'année qu'on a vécue et qui semble continuer un petit peu, 2021, qui continue un peu sur les mêmes rails. Vous restez optimiste, vous êtes d'un naturel absolument optimiste.
Moi, je suis ni optimiste ni pessimiste. Comme dit Edgar Morin, je suis un opti-pessimiste. Un opti-pessimiste, ça veut dire pour moi que je suis positif. J'essaye d'être positif, pas optimiste ou pessimiste, parce que là, on s'enferme dans une bulle. On dit « je suis pessimiste, je suis optimiste ». Moi, j'essaye d'être ouvert et positif, comme le disait Gramsci. Il disait que la meilleure façon de construire le bonheur, c'est en étant positif. Et je suis tout à fait dans cette position, dans cette vision d'une attitude positive plutôt que d'avoir une attitude optimiste.
C'est amusant que vous citiez Gramsci maintenant, parce que vous parlez depuis longtemps d'une rupture de civilisation. C'est une phrase de Gramsci que j'ai pas là en tête parfaitement, mais qui est très connue, qui dit que c'est entre une fin de civilisation et un début qui a un clair-obscur où apparaissent les monstres. Je crois qu'on y est précisément là maintenant tout de suite.
C'est une phrase de Gramsci qui est très connue.
Oui, c'est ça. Qui est très belle. Je vais peut-être la citer. Bon, comme on est en enregistrement, ça ne mange pas de pain. Le vieux monde se meurt, le nouveau élan est à paraître et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Ça, c'est la phrase de Gramsci.
Je vais taper la vision de Gramsci sur le positif. Gramsci est optimiste.
Je suis optimiste. Alors, attendez. Je suis pessimiste par l'intelligence, mais optimiste par la volonté.
Exactement, ça, j'adore cette phrase. Parce que quand on essaye d'être intelligent et rationnel, on est souvent pessimiste. On voit tout ce qui va se passer de mal. En revanche, par le mouvement, dans l'action, on est positif. Cette phrase de Gramsci, pour moi, elle est clé de mon avenir.
De votre vie et de votre avenir. Vous avez toujours confiance dans la science, dans le progrès ? À l'heure où on parle beaucoup de décroissance.
Je ne sais pas ce que c'est que le progrès. Parce que quand je parle au progrès, je pense progrès par rapport à quoi ? Par rapport à l'intelligence de l'homme, par rapport à la liberté humaine, par rapport à la relation sociale, par rapport à la vision spirituelle du monde. Donc, je ne suis pas un fanat du progrès. Je suis plutôt pour être capable de progresser, c'est-à-dire de changer dans le dynamisme de l'action. Pour moi, c'est dans la dynamique des interactions, dans la dynamique de l'action que l'on change. C'est pour ça, pour moi, le progrès, entre guillemets. Être capable de changer dans la dynamique des interactions avec les autres.
Et vous, quelles sont les dernières nouveautés scientifiques, en tout cas sur lesquelles vous tweetez, vous le disiez régulièrement, qui vous donnent de l'espoir pour les prochaines années, prochaines décennies ?
Alors moi, ce qui me donne l'espoir, c'est ce que j'appelle dans mes livres l'épigénétique, c'est-à-dire la possibilité de modifier l'expression de nos gènes par notre comportement. Ça, je crois que c'est une des disciplines les plus importantes de l'avenir. Elle a 20 ans, elle n'a même pas 20 ans. L'épigénétique, c'est la possibilité de modifier l'expression des gènes par notre comportement.
C'est-à-dire, donnez-moi un exemple concret pour qu'on comprenne bien tous.
Par exemple, la nutrition, la méditation, le bonheur, la relation aux autres, vont modifier l'expression de certains gènes. Certains gènes vont c'est comme un bouton qu'on met plus fort ou moins fort la radio. Certains gènes vont s'exprimer plus fort, d'autres vont s'exprimer moins fort. Et c'est notre capacité, notre responsabilité de pouvoir le faire, de moduler l'expression de nos gènes par notre comportement. Ça, c'est fondamental pour les années à venir. Et cette discipline est une discipline les plus importantes de la biologie qui nous apprend comment faire.
C'est-à-dire, au final, que ce qu'on croyait être une sorte de destin n'est pas le mot, hein, mais on croit qu'on est programmé par nos gènes.
Déterminisme.
Voilà, déterminé par nos gènes, et en fait, on a un pouvoir dessus.
Voilà, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, La Symphonie du Vivant, pour montrer que comme une symphonie, on peut être les chefs d'orchestre de notre propre corps, et notre responsabilité peut nous conduire à vieillir moins vite et à rester en meilleure santé grâce à l'épigénétique.
Oui, donc c'est formidable, en fait, ça nous permet de reprendre la main, quoi, de la responsabilité sur, euh, Sur une science qui peut faire peur en plus, la génétique.
C'est ce que j'essayais d'expliquer dans ce livre.
Oui, la symphonie du vivant.
On peut être responsable sans être coupable. On peut être responsable sans se sentir coupable si ça ne marche pas.
On peut être responsable sans se sentir coupable. Pourquoi la culpabilité, vous pensez que c'est quelque chose dans la vie qui empêche d'avancer?
Je pense qu'être responsable et coupable, c'est deux choses différentes. Je me sens responsable de ma santé, mais je ne me sens pas coupable si ça ne va pas. Je suis responsable, mais c'est le dessin, ce sont les aléas de l'environnement, le déterminisme qui vont faire que ça ne va pas. Mais je ne me sens pas coupable.
Quand on vous écoute, on a l'impression que la vieillesse a effectivement très peu de prise sur vous. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui vous fait peur de vieillir?
Non, ça ne me fait pas peur de vieillir, c'est un challenge, c'est un défi. Vieillir, c'est un défi que j'essaie de surmonter avec les moyens que j'ai. Et ça ne me fait pas du tout peur de vieillir. C'est un défi. Je vois que je lutte contre le vieillissement pas trop mal. Je le vois, les résultats. Je vois qu'à 83 ans, je fais beaucoup de sport. Je continue à avoir des relations avec les gens très équilibrées. Je continue à avoir avec ma femme des rapports intenses. Donc, je crois que j'arrive à vieillir moins vite grâce à tous les moyens que je connais et que j'essaie d'inculquer dans mes livres et expliquer aux gens.
Et c'est beau d'avoir toujours cette relation avec votre femme passé 80 ans. J'imagine que moi, je ne peux pas trop me faire cette idée à 30 ans, mais que plus ça fait longtemps... Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui apporte la vieillesse à votre amour?
On est très complémentaires, on a toujours aussi faim l'un de l'autre à 60 ans, 60 ans de mariage. C'est une merveille d'avoir cette proximité, cette relation charnelle et spirituelle. Donc, c'est une chance formidable, mais c'est aussi parce que c'est une femme extraordinaire. Si j'ai eu la chance de tomber sur cette femme, il y a un rôle mutuel, tomber l'un sur l'autre, mais c'est une chance formidable. Elle a un nom prédestiné, Stella, c'est l'étoile de ma vie.
Est-ce que, j'ai plus que deux questions, Joël, et ensuite je vous laisse à vos travaux et à vos écrits. Est-ce que c'était mieux avant?
Non, pas du tout. C'est une phrase que je partage pas du tout. J'ai lu Finkielkraut. Je suis plutôt du côté de Michel Serres que de Finkielkraut. C'était pas mieux avant. C'était mieux ce qu'on a construit pour le maintenant. C'est la créativité, la prospective, la résilience. Créativité, prospective, résilience. Ça montre que ce qu'on a fait avant crée du mieux aujourd'hui. Donc je peux pas dire c'était mieux avant. Ce qu'on a fait avant crée du mieux aujourd'hui.
Est-ce que le futur, c'était mieux avant?
Le futur.
Est-ce que ce qu'on imaginait du futur, c'était peut-être mieux
avant? Moi, j'ai un petit mot que je dis souvent, c'est le futur n'est plus ce qu'il était.
Oui, c'est ça. Hein.
Le futur n'est plus ce qu'il était. Il y avait une espèce d'utopie enthousiaste du futur. Le futur, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup de précision et beaucoup de savoir-faire. Moi, je suis un scientifique rationaliste, prospectiviste. J'essaie de démontrer que l'on peut prédire ce qui va se passer. Je l'ai fait, je ne suis pas totalement trompé. Et je continue de le faire.
Oui. Et ma dernière question, Joël, c'est de savoir si vous avez peur de la mort.
Non, pas du tout, vraiment pas. Pour moi, c'est je pense que plus on a donné, plus on a partagé, plus la mort devient quelque chose comme une cloison de papier qu'on traverse dans ces habitats japonais. Une cloison de papier qu'on traverse. Parce que plus on est léger, plus on a laissé aux autres, moins on a gardé pour soi, plus on est léger, plus on traverse cette cloison de papier facilement. C'est ça la mort pour moi.
Ah bah dis donc, c'est très beau. C'est peut-être une des plus belles descriptions que j'ai entendues de la mort. Merci beaucoup, Joël Le Rennais, pour votre
Merci
temps.
Merci de vos questions. Vous m'enverrez le lien.
Merci, Joël Le Rennais, pour ce temps passé avec nous. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Misset, réalisation Aurore Meilleur-Mailleux, mixage Laurie Galgani, coordination et prise de son Marine Rowe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche ou alors sur Instagram @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.